E-Radio, l'invité de la rédaction. Marius Renaudet.
Antoine Thiel, Guillaume Van Dersler, bonjour.
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 Vous représentez aujourd'hui sur les ondes de radio un collectif de jeunes européens qui souhaitent l'instauration d'un éco-score à l'échelle de l'UE. Alors déjà, très concrètement, pourriez-vous rappeler à nos auditeurs en quoi consisterait ce nouvel outil de mesure ?
Alors, ce qu'on prend toujours comme image, c'est le Nutri-Score. La plupart des gens le connaissent. C'est lettres allant de A à E qui permettent d'indiquer l'aspect nutritionnel d'un produit. Eh bien, nous aimerions la même chose, mais pour indiquer plutôt l'impact environnemental des différents produits. Un éco-score, donc, qui apparaîtrait sur tout type de produit vendu au sein de l'Union européenne pour permettre donc aux consommateurs d'avoir une meilleure information sur les produits qu'ils achètent.
Et concrètement, comment vous feriez pour classer ces produits ? Quelle serait votre méthode de calcul ? Et puis, est-ce que finalement, cette méthode de calcul serait accessible du grand public ? Est-ce que les citoyens pourraient comprendre vraiment comment se fait ce calcul ?
L'idée qu'on promeut, c'est vraiment d'avoir un éco-score dont la méthode de calcul est transparente et a été établie en accord avec les différents acteurs. Alors, il y a déjà des éco-scores qui existent actuellement, en fait, issus d'initiatives privées. Mmh. Et notre idée est justement, en fait, d'harmoniser le concept de l'éco-score parce qu'on trouve ça vraiment un outil très utile pour le consommateur, pour le guider facilement dans ses choix. Mais l'idée est vraiment d'avoir une méthode unique. Mais alors, nous, dans notre projet, on ne tranche pas concrètement quelle méthode est la meilleure parce qu'en tant que citoyen, c'est un arbitrage extrêmement difficile à faire.
Ça serait aux États
mais
de le
faire. On fait référence à pas seulement aux États, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un dialogue avec toutes les parties concernées, d'avoir forcément l'État qui joue un rôle important là-dedans, qui doit vraiment défendre les intérêts de la société. Mais alors, d'avoir aussi l'expertise des acteurs, de toutes les chaînes, finalement, de la production des produits, pour vraiment tenir compte des contraintes réelles.
Mais bien évidemment, nous, en tant que citoyens, en tant que jeunes, voulant participer à cette transition qui est vraiment importante, la transition écologique, eh bien évidemment, on défend un éco-score qui soit le plus ambitieux possible, c'est-à-dire un outil qui permette réellement aux consommateurs de pouvoir se diriger vers des produits qui sont plus respectueux de l'environnement, parce qu'ils sont, par exemple, plus locaux, ou parce qu'ils sont plutôt de saison. Bref, c'est vraiment notre démarche.
Et justement, en parlant d'ambition, vous parliez aussi il y a quelques minutes d'autres éco-scores qui existent dans certains pays, notamment dans l'Union européenne. En France, hein, par exemple, il existe un éco-score qui a d'ores et déjà été lancé l'été dernier, mais uniquement pour les produits alimentaires. Votre projet, c'est vraiment de s'intéresser finalement à tous les types de produits, y compris aux meubles, par exemple.
Voilà, tout à fait. Et c'est vrai que nous ne sommes pas du tout les initiateurs de ce concept. Ce sont justement les Français, la France qui est pionnière en la matière, puisque vous êtes donc le tout premier pays à être arrivé avec ce concept. Et je pense qu'aussi, dans nos recherches, on a pu remarquer que c'est en France que l'idée est la plus développée, puisque vous avez déjà aussi une base de données Agribalis qui permet notamment de calculer ces différents scores. Maintenant, c'est vrai qu'il y a aussi une diversité d'associations qui maintenant veulent aussi créer leur propre concept d'éco-score. Quelque part, on ne peut que se réjouir de cette mouvance-là. Après, nous, c'est vrai que notre projet est peut-être d'autant plus essentiel qu'on voit apparaître une prolifération de différents éco-scores calculés sur des bases différentes. On voit que le concept maintenant touche aussi l'Allemagne, le Luxembourg et la Belgique, où nous sommes ici pour le moment. Et donc, c'est pour ça qu'on a vraiment envie d'avoir un éco-score qui soit uniforme au niveau de toute l'Union européenne et avec cet objectif, cet idéal qui serait avoir cet éco-score sur tout type de produit.
Donc la France ne va pas assez loin finalement, si je vous suis bien, en se limitant aux produits alimentaires et agroalimentaires.
En réalité, je pense que c'est déjà un très bon début parce que, mine de rien, bon, ça demande toute une logistique, etc. Donc, je pense que c'est un très, très bon début. Nous, simplement, voilà, on veut pousser l'ambition encore plus loin et se dire pourquoi pas également inclure, notamment pour commencer, par exemple, aussi tous les vêtements, puisque c'est aussi une source importante de pollution. Maintenant, voilà, comme je vous le disais, l'approche française est très intéressante. Elle est aussi multiple puisqu'il y a différents types d'éco-scores qui sont proposés. Et je pense que ce projet d'éco-score européen a encore plus de sens actuellement au vu de la présidence par la France de l'Union européenne. On pourrait imaginer que la France pourrait défendre une approche plus européenne d'un écoscore au niveau de l'échelle du continent. Ça pourrait être une belle ambition de la part du pays.
Et puis aussi, au fond, il s'agit vraiment d'une vision à terme, que ce soit vraiment sur tous les produits, voire même les services. Mais on est tout à fait conscient que ça va se faire de manière très, très progressive. Et donc, chaque amélioration, finalement, est bien sûr la bienvenue, que ça commence par des secteurs spécifiques comme l'alimentaire, puis après les vêtements et d'autres. Mais à ce niveau-là, c'est aussi intéressant de faire le lien avec les initiatives européennes, enfin de la Commission. Elle a vraiment développé différentes initiatives pour lesquelles elle a déjà récolté des feedbacks pour certaines. Elle vient d'en ouvrir une aussi pour tout ce qui est alimentaire. Mais en fait, ce qui ressort de ces initiatives, c'est qu'elle-même vise déjà les différents types de biens. Donc, je parlais à l'instant d'initiatives qui visent les produits alimentaires. Il y a aussi des initiatives qui visent de manière plus générale tout ce qui est non alimentaire. Et donc là, on voit que la Commission elle-même est vraiment dans une mouvance d'essayer de trouver quelle est la meilleure manière finalement d'outiller les consommateurs pour faire des choix durables le plus facilement possible. Et nous, finalement, l'approche qu'on veut défendre dans ce contexte qui finalement bouge déjà beaucoup au niveau de la Commission, c'est de proposer vraiment cet éco-score, donc l'indication des lettres et des couleurs, comme outil vraiment de référence à tous les niveaux et que ce soit vraiment cette vision-là qui soit adoptée. Parce que ça, c'est pas encore une évidence quand on lit les différentes initiatives. Par exemple, pour tout ce qui est alimentaire, là, ce n'est pas encore une option vraiment envisagée. Et donc, nous, on voudrait vraiment généraliser pour finalement la facilité du consommateur d'avoir un éco-score pour tout, mais qui soit fiable. Ça, c'est vraiment le
gros point, ouais.
Le maître mot, et que du coup, ce soit vraiment des paramètres fixés dans le cadre d'une procédure de l'Union européenne.
Et justement,
avec une transparence.
Sur ce point, on va y revenir, mais j'aurais peut-être une question pour retourner juste quelques minutes, quelques instants sur le concept en lui-même. En début d'interview, vous faisiez la comparaison avec le Nutri-Score, un projet qui a largement été décrié par certains secteurs et qui doit faire face au poids du lobbying. L'éco-score, finalement, est-ce qu'il ne risque pas de se heurter à des problématiques similaires? Et puis surtout, quelle réponse vous aimeriez apporter, vous, ou en tout cas vous proposeriez à la Commission européenne face à cela, finalement?
C'est en effet une bonne question et c'est une question qu'on a reçue aussi au tout début de notre projet. On nous a dit oui, mais bon, comment voulez-vous vous assurer que votre projet ne va pas être pris par des lobbies, etc. Et en fait, en y réfléchissant, on s'est dit, mais en fait, si on s'arrête à cet argument-là, on ne fait rien. Et nous, notre volonté en tant que citoyen, puisque c'est réellement un projet citoyen, on a besoin de récolter ce 1 million de signatures pour pouvoir présenter notre projet à la Commission. On s'est dit, voilà, en tant que citoyen, on a envie d'apporter un message clair qui est le suivant. Nous voulons, comme beaucoup d'Européens, nous voulons une information beaucoup plus claire sur l'impact environnemental des produits que nous achetons, parce que nous avons envie aussi d'avoir un impact et nous savons que nous pouvons avoir cet impact lors de nos achats. Il est clair que si le projet monte dans les sphères européennes, il va y avoir énormément d'intérêts variés, divergents, certains pro-environnement, d'autres peut-être un peu moins, et donc il y aura d'office certainement certains compromis à atteindre. Après, nous, on reste convaincus que en adoptant une démarche scientifique et si on implique également réellement des citoyens dans ce processus, eh bien on pourra peut-être contrer, voilà, les différentes critiques qui ont été émises vis-à-vis du Nutri-Score. Et alors, il faut savoir aussi que on aimerait bien que soit indiqué également sur les différents produits un QR code qui permettrait aux citoyens qui veulent pousser plus loin leur démarche de pouvoir le scanner et de pouvoir ainsi connaître exactement la méthode de calcul de cet éco-score. Et comme ça, vous disposez un peu de deux systèmes. Un premier qui indique directement l'impact avec ses lettres assez faciles à comprendre, et puis un QR code qui indique plus précisément la méthode de calcul pour les gens qui veulent aller plus loin.
Et pour garantir cette fameuse fiabilité dont vous parliez il y a quelques minutes, est-ce qu'il ne faudrait pas créer une structure indépendante qui serait chargée du contrôle de ce mode de calcul et de cet éco-score plus généralement?
Peut-être, sans doute. Je dirais que c'est vrai qu'on ne va pas aussi loin dans notre réflexion et dans cette initiative, puisqu'en réalité, cette proposition Initiative citoyenne européenne est une première étape dans un processus. C'est une étape essentielle, puisqu'elle consiste à essayer de récolter un soutien assez important de la part des différents citoyens.
C'est mettre le dossier sur la table.
Voilà, c'est exactement ça. C'est mettre cette demande en avant.
Il y a quelques minutes, là encore, vous parliez de ces fameux 1 million de signatures à obtenir. À l'heure actuelle, on en est à peine à 5 000. Quelle est votre stratégie pour, au 22 juillet 2022, avoir récolté toutes les signatures nécessaires ?
Alors, la stratégie, elle est multiple. C'est vraiment l'idée de pouvoir jouer sur, dans plusieurs registres différents. Alors, il y a forcément on a vraiment misé sur le bouche à oreille, sur le fait que, en fait, l'initiative doit quelque part nous dépasser. Donc, nous, on a voulu vraiment mettre en place le concept, s'inscrire dans le registre d'initiative citoyenne, avoir, mais qu'en fait, finalement, les citoyens peuvent s'approprier ce projet, qu'ils se reconnaissent. Et que dans la mesure qu'ils soutiennent ce projet, d'en parler autour d'eux. Et nous-mêmes, on continue aussi dans cette année de récolte de signatures, de vraiment activement démarcher des organisations, la presse, mais aussi des partenaires qui peuvent répandre notre initiative auprès de leurs membres. Et là, on joue aussi de manière assez diverse auprès du monde académique pour toucher les étudiants et leur personnel, mais aussi auprès des ONG qui sont très importantes aussi.
Et puis simplement, enfin, c'est pour mettre un peu les choses en perspective, mais c'est vrai que donc nous on est une soixantaine de jeunes pour l'instant impliqués, répartis dans 10 pays européens. Je pense qu'il y a une motivation énorme, il y a beaucoup d'espoir aussi de voir cette initiative aboutir, mais comme vous le dites bien, c'est vrai que le nombre de signatures ne suit pas encore cette ambition que l'on a. On se rend compte que c'est extrêmement compliqué de récolter ces signatures. Il faut savoir que la plupart des initiatives citoyennes européennes qui ont réussi, ce sont des initiatives qui ont été portées par des grosses associations qui ont aussi des gros budgets. Un expert nous avait dit avant qu'on commence notre initiative, vous savez, vous devez au moins avoir un budget de 100 000 euros pour démarrer parce que vous devez engager des équipes, etc., qui vont faire ça pendant un an. Là, on a dit, bah, écoutez, nous, on a 100 euros, on a été vendre un peu de pain dans la rue pour récolter 100 euros pour démarrer. Donc, vous voyez, on part de là, on part vraiment avec juste de la motivation, mais au final, peu de contacts et surtout de ressources financières. Mais comme Guillaume l'a bien dit, on croit fermement au potentiel de l'effet de la boule de neige, comme pour être très simple dans ma métaphore, c'est-à-dire le fait que d'autres citoyens puissent nous rejoindre dans cette initiative, puissent signer, en parler autour d'eux, et puis également peut-être aussi prendre une part active dans la diffusion de ce message important.
Écoutez, on vous souhaite bon courage. Merci à vous deux d'avoir répondu à mes questions.
Avec plaisir.
Un tout grand merci.
C'était l'invité de la rédaction d'Euradio. Retrouvez dès maintenant les podcasts de la rédaction sur euradio.fr.